Vous écoutez, on lit pour vous.
La cravate cède le pas au mouchique. Un texte de Nathaël Morissette, paru le 24 février 2024 dans la presse. Les cravates et les escarpins sont-ils des espèces en voie de disparition? Chose certaine, le style mou, gracieuseté de la pandémie, déteint encore aujourd'hui sur les tenues portées à l'occasion des 3 journées par semaine passées au bureau où le confort et les chaussures de sport sont maintenant rois et maîtres. Des cravates, je n'en vois presque plus, lance spontanément Anne-Marie Henson, associée chez BDO Canada. Dans son cabinet de comptable, elle a également observé que les femmes délaissaient le veston et que le port du jeans n'était plus l'apanage des vendredis décontractés, mais de n'importe quelle journée de la semaine. Il y a 2 semaines, j'étais au bureau en jeans, un jeudi. J'ai dit à mon collègue, « Le jeudi est le nouveau vendredi », raconte Anne-Marie Henson en riant. Elle a même vu une employée porter une jupe en jeans, audace que peu auraient eu avant la pandémie. Madame Henson souligne même au passage que le look était absolument réussi et de bon goût. Habitués de voir des gestionnaires en veston-cravate lors de formations qu'ils donnent en ressources humaines, Alain Gosselin, professeur émérite à HEC Montréal, fait le même constat. « Des cravates, depuis la pandémie, je ne pense pas en avoir vu. » Et des chaussures plus habillées, il y en a beaucoup moins, a-t-il lui-même observé en allant magasiner. Celles-ci semblent s'être faites de mille pions par les chaussures de sport. Les seuls qui ont conservé un code vestimentaire strict, les policiers. Lors d'une récente formation qu'il a donnée à un corps policier dans un centre de villégiature, tous portaient l'uniforme. Le confort avant tout. La pandémie et son confinement, qui n'obligeaient plus les gens à être tirés à 4 épingles, ont-ils contribué à ce retour au bureau plus décontracté? On pense que les gens ont envie d'être plus coquets et de s'occuper d'eux, mais il y a l'élément confort qui a peut-être changé la donne, reconnaît Lily Fortin, présidente de Tristan. Ils n'ont peut-être plus le goût de s'habiller en mou, par contre, ils ont goûté au confort. Elle le voit avec la popularité des vestons plus extensibles, qui se portent comme des cardigans, par exemple. On travaille fort sur les coupes pour que ça tombe bien et que ce soit confortable. La tendance à être habillé un peu plus relax, à mon avis, était là avant la pandémie. Comme avec le reste, la pandémie a eu un effet d'accélération de changement qui était déjà en place selon Alain Gosselin, professeur émérite à HEC Montréal. Outre le fait que notre industrie, qui est créative, faisait déjà dans le mou avant la pandémie, on remarque quand même qu'il existe aujourd'hui un mou premium, lance pour sa part Katia Aubin, vice-présidente communication et image de marque chez Sidley, agence de création multidisciplinaire. On voit toujours un souci du détail qui fait une différence. On peut voir les joggings, mais avec un haut plus chic ou des chaussures plus recherchées. Les codes de style peuvent varier en fonction des services. Les groupes design et architecture présentent souvent une esthétique vestimentaire réfléchie. À BDO Canada, Anne-Marie Henson reconnaît que le code vestimentaire au bureau est beaucoup plus flexible qu'avant la pandémie. Ce qu'on veut, c'est que les gens soient présentables et s'ajustent aux besoins des clients. Et en cette période où les employeurs peuvent avoir du mal à recruter ou à retenir les candidats compétents, un code vestimentaire plus souple qui permet aux gens d'être plus créatifs peut permettre d'attirer des employés. Je pense qu'on commence à réaliser qu'il faut être beaucoup plus flexible pour garder nos jeunes talents, soutient Mme Henson. Parce que, pour eux, la flexibilité c'est le mode hybride et ça va aussi avec le code vestimentaire. L'habit fait parfois le moine. La tenue plus décontractée n'est pas nécessairement de mise à toutes les occasions, soutient toutefois Julie Blais-Comeau, spécialiste de l'étiquette. Selon la fondatrice de l'entreprise étiquettejulie.com, la profession exercée et les gens rencontrés peuvent faire pencher la balance vers le port du veston. Il y en a qui sont très contents de retourner dans les tailleurs, dans les complets, ajoute celle qui donne notamment un atelier intitulé « S'habiller pour réussir ». Quand notre client nous voit, est-ce que nous avons l'air de ce que nous faisons dans la vie? Sommes-nous crédibles? Basé sur notre tenue vestimentaire, est-ce qu'on peut nous faire confiance? Qu'on soit d'accord ou pas, on est jugé de l'extérieur vers l'intérieur. C'est le premier coup d'œil. Avec cette première impression-là, les gens vont capter s'ils peuvent vous faire confiance, dit Julie Blais-Comeau. Est-ce que là où le comptable de Lady Gaga peut s'habiller différemment du comptable de quelqu'un qui a une entreprise dans les assurances? Probablement que oui, lance-t-elle en riant. Que dit la loi sur le code vestimentaire? Un employeur peut-il imposer un code vestimentaire? Oui, mais à certaines conditions. Lorsqu'un employeur rend obligatoire le port d'un vêtement particulier, il doit le fournir gratuitement à la personne salariée payée au salaire minimum, indique l'article 85 de la loi sur les normes du travail. L'employeur ne peut exiger une somme d'argent d'une personne salariée pour l'achat, l'usage ou l'entretien de vêtements particuliers qui aurait pour effet que la personne salariée reçoive moins que le salaire minimum. Les droits de l'employeur de formuler des exigences en matière d'apparence personnelle doivent être conciliés avec le droit des employés à leur intégrité physique. Article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne, au respect de leur vie privée, article 5 de la Charte, à la sauvegarde de leur dignité, article 4 de la Charte, à leur liberté d'expression ainsi qu'à leur liberté de religion dans certains cas, article 3 de la Charte. Peut-on également lire sur le site de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés? C'était « La cravate cède le pas au mouchique », un texte de Nathaël Morissette, paru le 24 février 2024 dans La Presse.
Tousser, l'outil diagnostique de l'avenir? Un texte de Renaud Manuguera-Gagné, paru le 22 février 2024 dans Québec Science. Les progrès technologiques conjugués à l'intelligence artificielle pourraient permettre un jour une analyse approfondie de l'atout, ouvrant la voie à une détection précoce de diverses affections. Vous rappelez-vous la dernière fois que vous avez toussé? Était-ce plus intense que la fois précédente? N'ayez crainte, vous n'êtes pas la seule personne incapable de répondre. L'atout, c'est tellement banal qu'on ne s'en soucie pas, d'autant qu'il est difficile de décrire avec fiabilité l'intensité ou la fréquence des épisodes de toux, explique Simon Grandjean Lapierre, infectiologue au Centre hospitalier de l'Université de Montréal. C'est un mécanisme normal de défense du corps, mais elle peut aussi être un symptôme de maladie grave. La toux mérite donc qu'on l'écoute avec attention. Heureusement, ce symptôme intéresse de plus en plus le corps médical. Depuis la pandémie de COVID-19, on a vu apparaître de nouveaux outils d'intelligence artificielle capables de reconnaître la toux, indique le médecin. Dans un monde idéal, ces applications pourraient évaluer l'évolution de l'état d'une personne, voire détecter directement des maladies comme la pneumonie ou le cancer du poumon à partir du simple son émis par un malade. Cet objectif, le docteur Grandjean Lapierre espère bien l'atteindre en tentant lui-même d'améliorer la caractérisation de la toux. Le hic, c'est que les intelligences artificielles, le IA, actuelles, manquent de fiabilité pour atteindre ces objectifs. Pour les améliorer, il faut les entraîner avec des données où les sons de toux ont été clairement caractérisés au préalable par des êtres humains, que ce soit pour leur durée, leur intensité ou simplement leur sonorité. Des données qui, pour l'instant, sont largement insuffisantes. Pour savoir si une intelligence artificielle est capable de reconnaître et d'analyser avec précision tous les sons de toux, il nous faudrait un arbitre externe, une unité de mesure déjà approuvée par la communauté médicale. Or, cet arbitre n'existe pas, ajoute le docteur Grandjean Lapierre. Ce n'est pas évident de distinguer la toux d'un raclage de gorge ou d'un éternuement. Alors, si les humains n'ont pas de moyens fiables de la mesurer, comment peut-on être sûr que les analyses d'une intelligence artificielle sont fiables? Pour mettre sur pied cet étalon or de la nuance acoustique des quintes de toux, le chercheur et son équipe reviennent donc à la case départ. Mes collègues et moi évaluons si l'annotation humaine des bruits de toux peut être fiable pour ensuite mesurer la performance des outils d'IA. Pour y parvenir, ils ont fait écouter à une vingtaine de cobayes plus de 40 heures d'enregistrement d'expectoration. Les résultats, rapportés dans le BMJ Open Respiratory Research, confirme que même si l'oreille humaine distingue très bien la toux, plusieurs paramètres restent difficiles à décortiquer. Avec ces données, on peut maintenant confirmer avec un grand niveau de confiance si une intelligence artificielle est capable de détecter de la toux avec précision, signale le médecin. Mais ça se complique quand les bruits sont rapprochés et ambigus. C'est là qu'on pousse la limite de l'être humain. Donc, il est difficile d'aller plus loin et de savoir si une IA peut les qualifier correctement. Ce que ces résultats indiquent, c'est que si, dans un avenir proche, votre téléphone intelligent vous disait que votre toux l'inquiète, vous seriez probablement réellement malade. Toutefois, il faudra encore plusieurs examens médicaux en compagnie de vrais professionnels de la santé pour en connaître la cause. C'était Tousser, l'outil diagnostique de l'avenir? Un texte de Renaud Manuguera-Gagné, paru le 22 février 2024 dans Québec Science.
Le panier bleu, Amazon ou Walmart? Un texte d'Alain McKenna, paru le 26 février 2024 dans Le Devoir. Le site du panier bleu file un bien mauvais coton à l'heure actuelle. Il n'a pas les prix ni la variété pour rivaliser avec le géant Amazon, ni les entrepôts, ni le service de livraison ultra rapide. Tout cela rend Amazon intouchable, ou presque, car un nouveau rival est en train de se dresser, Walmart. On dit souvent que la seule direction qu'on peut prendre quand on est au sommet, c'est vers le bas. Amazon est en train d'acquérir une connaissance bien intime de cet adage dans la vente en ligne. Le géant de Seattle, qui en 2022 comptait 49% de tous les achats faits par les consommateurs américains sur Internet, a vu sa part de ce marché chuter à 38% à la fin 2023. C'est Walmart qui est déjà le plus gros détaillant en Amérique du Nord qui en a profité le plus. Ses ventes en ligne ont quadruplé de 2019 à 2023 pour dépasser les 83 milliards de dollars américains. Cela équivaut à un peu plus de 6 % de tous les achats en ligne faits aux États-Unis l'année dernière. On s'entend, entre 6 % et 38 % de parts de marché, il reste encore une très grande marge à combler pour que Walmart finisse par voler à Amazon le titre de roi de la cybermontagne. Mais s'il existait sur le site Mis au jeu une possibilité de parier sur cette rivalité, et pourquoi pas, il y en a bien une pour l'émission La Voix de TVA, après tout, la cote de Walmart serait probablement bien meilleure que ce qu'on peut croire. D'autant plus qu'en douce, Walmart vient de procéder à une acquisition qui pourrait agir comme un turbo sur ses activités en ligne. Une acquisition un peu inusitée qui ne lui a demandé que de verser que 2,3 milliards de dollars américains et qui en dit long sur les moyens à prendre pour quiconque espère un jour se tailler une place à l'ombre de ces géants américains dans le marché de la vente sur Internet. Divulgacheur, ce n'est pas le panier bleu qui aurait pu en faire autant. La télévision réinventée. Au milieu de la semaine dernière, Walmart a effectivement annoncé son intention d'acquérir le fabricant de téléviseurs américains Vizio pour 2,3 milliards de dollars. Les téléviseurs Vizio sont des téléviseurs intelligents ou, pour utiliser le bon terme, des téléviseurs connectés. Ils se vendaient déjà principalement chez Walmart ainsi que chez Costco et Best Buy. Ce sont des téléviseurs bon marché, en ce sens où leur prix de détail est particulièrement bas. Vizio peut se le permettre puisqu'elle génère en réalité une bonne partie de ses revenus en vendant de la publicité qui s'affiche un peu partout dans l'écosystème de contenu auquel on peut accéder gratuitement à partir de ses téléviseurs. Vizio affirmait, au début de l'année, que sa division publicitaire avait grossi de 400 % depuis 2018. Elle compte désormais sur quelque 500 annonceurs, plusieurs d'entre eux des marques de produits de consommation parmi les plus connues en Amérique du Nord. Quelque 18 millions de foyers nord-américains ont un téléviseur Vizio à la maison et sont enregistrés sur sa plateforme. Juste là, c'est un mariage naturel pour Walmart qui pourra combiner une offre publicitaire ciblée à une offre de mise en marché en magasin et en ligne à ses fournisseurs et partenaires. Walmart le faisait déjà. Les revenus que le détaillant américain tire de la publicité numérique sur son site Web et ailleurs comptent présentement pour 3,4 milliards de dollars américains. C'est beaucoup. Mais en même temps, c'est très peu. C'est moins de 1 % du marché total de la publicité numérique en Amérique du Nord. Mais voilà, avec Vizio, Walmart pourrait accélérer la croissance de sa division publicitaire et créer un écosystème comparable à ceux d'Amazon et même de Meta, l'ex-Facebook. Pour les fabricants, annoncez chez Walmart, vendez chez Walmart et faites livrer par Walmart. Pour les consommateurs, abonnez-vous à Walmart Plus, son Amazon Prime, en quelque sorte, et ajoutez la livraison en un jour aux États-Unis, au bas prix qu'on vous proposait déjà. En prime, Walmart aura beau jeu de créer un service de diffusion sur demande en ligne qui pourrait aller au-delà des téléviseurs Vizio à la manière de l'application Prime Video qu'Amazon rattache à ses téléviseurs Fire TV, mais qui est téléchargeable gratuitement partout ailleurs. Walmart peut bien se le permettre. Ses ventes au détail, en magasin et en ligne, ont totalisé 440 milliards de dollars américains en 2023. Son plus proche rival est peut-être la chaîne Costco, qui n'a pas les mêmes ambitions sur Internet que Walmart, encore moins qu'Amazon. Évidemment, le jour où Costco se mettra à vendre des téléviseurs de marque Kirkland, la conversation risque de prendre une tout autre tangente. Vendre en ligne, oui, mais en 2024, rien n'est plus facile que vendre sur Internet. Il ne faut pas 20 minutes pour créer un site web, afficher les produits et acheter un peu de publicité. Probablement qu'il est tout aussi simple d'acheter des articles en gros sur des sites chinois comme Alibaba et de les revendre à l'unité ailleurs sur la toile et à en dégager une marge de profit décente. En 2024, tenter de rivaliser avec Amazon, c'est une toute autre paire de manches. Son site web n'est que la pointe de l'iceberg. L'approvisionnement, la distribution, la livraison et la fidélisation doivent tous être pris en compte. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui ont les moyens de le faire. Le panier bleu ne les a pas. Et si les produits québécois auront bientôt une place de choix sur le site d'Amazon, il serait sage pour l'organisme responsable de cette étiquette de ne pas brouiller ses relations avec Walmart. C'était Le panier bleu, Amazon ou Walmart, un texte d'Alain McKenna paru le 26 février 2024 dans Le Devoir.
La violence préoccupe le Conseil du statut de la femme. Un texte de Florence Morin-Martel, paru le 1er mars 2024 dans Le Devoir. 50 ans après sa création, le Conseil du statut de la femme, CSF, se réjouit des avancées réalisées au Québec en matière d'égalité homme-femme. Mais il déplore, entre autres, les violences que subissent encore les Québécoises. Dans un nouvel ouvrage, l'organisme revisite l'un de ses documents phares de 1978 afin de cerner le chemin parcouru et celui qu'il reste à faire. L'enjeu des violences est inacceptable, lance la présidente du CSF, Louise Cordeau, en entrevue au Devoir. Bien que la population soit plus sensibilisée à ce problème qu'auparavant, le nombre de femmes et de filles assassinées au Québec est toutefois passé de 13 en 2019 à 24 en 2021, écrit l'organisme gouvernemental dans son livre « L'égalité entre les femmes et les hommes, regard sur 50 ans d'évolution au Québec ». Dans cet ouvrage à paraître au printemps 2024, le CSF a revisité le premier avis qu'il avait émis en 1978, intitulé « Pour les Québécoises, égalité et indépendance ». À l'époque, ce document, contenant plus de 300 recommandations, avait été un succès de librairie et avait fait office de politique d'ensemble pour le gouvernement du Québec. Le nouveau volume dresse un bilan tout en nuances de la condition féminine et de son évolution de 1978 à aujourd'hui. Le livre est divisé en 5 volets. Socialisation et stéréotypes sexuels, santé, famille, marché du travail ainsi que loisirs, création artistique et pouvoir. Nous ne pouvons crier victoire pour aucun de ces thèmes, soulève la directrice de la recherche et de l'analyse au CSF, Mélanie Julien. On est toujours dans le « oui, mais… » Il y a eu une telle avancée, telle politique publique. Mais quand on regarde les données, il reste encore des inégalités, ajoute celle qui participe aussi à l'entrevue du Devoir en compagnie de Mme Cordeau. Le poids de la charge mentale. À titre d'exemple, les Québécoises consacrent encore plus de temps aux responsabilités domestiques et familiales que les hommes. Elles réalisent quotidiennement 1 heure et 2 minutes de travail non rémunéré de plus qu'eux, spécifie-t-on dans le livre du CSF. Les femmes ont une charge mentale plus lourde que les hommes, dans la mesure où elles anticipent davantage les tâches à accomplir, les planifient, les accomplissent ou les délèguent. Des avancées majeures ont cependant été réalisées dans plusieurs domaines depuis 1978, souligne Mme Julien. En 1997, la création du réseau des centres de la petite enfance a d'ailleurs permis à beaucoup plus de femmes d'être actives sur le marché du travail. Mais aujourd'hui, bon nombre de mères doivent retarder leur retour en emploi ou aux études faute d'une place en garderie pour leur enfant, indique la présidente du CSF. En date du 30 septembre 2023, 32 113 tout-petits avaient immédiatement besoin d'une place en service de garde éducatif, selon le site du gouvernement. Autre bémol, les écarts persistent aussi entre les Québécoises elles-mêmes, mentionne Mélanie Julien. Certaines femmes sont davantage défavorisées, que ce soit celles qui sont racisées ou en situation de handicap. En matière de santé reproductive, les stérilisations forcées qu'ont subies des Autochtones en sont un exemple, indique-t-elle. Devoir de mémoire. Selon la présidente du CSF, le nouvel ouvrage permet toutefois de rappeler le travail colossal qui a été accompli par nos prédécesseurs. Le Québec est un endroit dans le monde qui est envié pour ses politiques publiques et pour la façon dont les enjeux d'égalité sont traités. Certains faits concernant la condition féminine en 1978 peuvent aujourd'hui nous sembler choquants, note pour sa part Mélanie Julien. À une certaine époque, on se mariait et on était désigné par le nom de notre époux, comme Madame Fernand Julien, par exemple. C'est assez fondamental d'avoir mis ça derrière nous avec la réforme du droit de la famille de 1980, explique la directrice de la recherche et de l'analyse au CSF. Certains changements prennent toutefois du temps, poursuit Mme Julien. Toute la question des violences faites aux femmes et de l'éducation des jeunes, c'est vraiment du travail qui se fait sur plusieurs générations. D'où l'importance de ne pas baisser les bras. C'était « La violence préoccupe le Conseil du statut de la femme », un texte de Florence Morin-Martel, paru le 1er mars 2024 dans Le Devoir.